Autour de la question en Éthiopie.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sur les traces de notre humanité. Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour partir en expédition aujourd'hui dans le rift éthiopien, dans la bien nommée vallée de l'Omo, sur les traces de nos ancêtres, humains et préhumains. Comment les paléontologues, archéologues, géologues s'y prennent-ils sur le terrain pour reconstituer cette buissonnante préhistoire de l'humanité? À partir de quelles traces, minérales, végétales, animales, fossiles, parviennent-ils à remonter le fil, à reconstituer l'environnement des hominidés et l'émergence du genre Homo? Autant de questions que nous allons creuser in situ avec notre reporter Charlie Dupiot, qui a pu suivre cet été dans le rift éthiopien la mission de recherche internationale et interdisciplinaire de l'Homo autour de la question comment remonter sur les traces de notre humanité en Éthiopie. Bienvenue sur le terrain avec Charlie et les chasseurs de fossiles.
Calcanéum.
Donc là c'est un petit os.
Ça c'est un calcanéum, donc c'est l'os du talon en gros. C'est celui qu'on sent vraiment au bout de notre pied du côté dorsal et sur lequel on marche. Là pour le coup, bon, bah, c'est pas chez un humain, mais ça ressemble pas mal. C'est beaucoup plus petit par contre, et c'est du singe.
Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
Un fragment de calcanéum de singe, un morceau de quartz ou un microfossile de pollen sont autant d'indices pour les paléontologues, archéologues ou palynologues que vous avez eu la chance de suivre cet été. Vous avez participé, Charlie, micro en main, à une semaine de fouilles sur le terrain en Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, avec cette équipe internationale de chercheurs d'os.
Oui, une équipe qui fait partie de l'Omo Group Research Expedition, un groupe de recherche transdisciplinaire lancé en 2006 qui rassemble une quarantaine de chercheurs de plusieurs pays. Et chaque été, ou presque, une partie de ces chercheurs partent en mission de 2 semaines à 1 mois pour étudier la faune dans son ensemble, comprendre la géologie des lieux ou bien chercher des pierres taillées par nos ancêtres. Alors à la tête de l'expédition, Jean-Renaud Boisserie, paléontologue. Il dirige le laboratoire Palévoprime de l'université de Poitiers et du CNRS. Et il va nous guider dans cette vallée de l'Omo. Pour l'atteindre, il faut 2 jours de route depuis la capitale, Addis Abeba. Nous sommes à l'extrême sud-ouest de l'Éthiopie, plus précisément au cœur de la formation de Shungura, qui fait près de 60 km de long, avec une largeur de 5 à 7 km selon la zone. Alors on y trouve bien sûr des restes d'hominidés, aussi vieux que la célèbre Lucie, datée de 3,2 millions d'années. Et pendant cette mission que j'ai pu suivre, d'autres fossiles d'hominidés ont été collectés dans l'Omo, notamment des fragments de dents, pour lesquels il faut à chaque fois réaliser un tamisage et passer la zone au peigne fin. C'est le cas ce matin, toute l'équipe de paléontologie est mobilisée.
Ok, bring the sieves, we'll put them over there. Sieve buckets, une fois que tout est enlevé, vous progressez, alors faudrait aussi remonter un petit peu.
Qu'est-ce qu'il s'agit de faire là, Jean-Renaud ?
Alors vous voyez là-bas, un petit peu plus haut, à 5 mètres de nous, il y a un cairn, donc une pile de cailloux qu'on a réalisé il y a 2 jours. Parce que là, on a trouvé un fragment de dent d'hominidé, d'humain. On est dans un site qui a environ 2,6 millions d'années. C'est relativement ancien. Le spécimen type, celui qui a permis la définition de l'espèce de Australopithecus ethiopicus, a été trouvé là juste derrière nous, à une cinquantaine de mètres.
Et la découverte, là, une cinquantaine de mètres d'ici, elle a eu lieu quand ?
Alors cette découverte-là, elle a eu lieu en 1967.
Et qu'est-ce qui avait été retrouvé alors de cet Australopithecus ?
Une mandibule en état assez piteux, il n'y a pas de dents dessus, mais elle est suffisamment distinctive pour reconnaître qu'il s'agit de quelque chose de différent.
Et la mandibule, c'est la mâchoire ?
C'est la mâchoire inférieure.
Et là, il y a l'espoir de retrouver autre chose que cette dent ?
Alors, on a juste un fragment. Donc l'idée, c'est de trouver le reste de la dent et éventuellement plus, s'il y a plus qui va avec. Voilà. On sait que ça date de 2,6 millions d'années parce que, vous voyez là, juste un peu au-dessus de nos têtes, dans la colline qui nous surplombe, vous avez un niveau de cendre volcanique. Et ce niveau de cendre volcanique, il a été daté à 2,53 millions d'années. Donc comme on est quelques mètres en dessous, on est un petit peu plus ancien. Donc voilà, ça ce sont des repères extrêmement importants dans la stratigraphie et pour donner un âge. La plupart des fossiles viennent des sables.
Pourquoi ?
Parce que les sables sont déposés par la rivière et que ça a tendance à concentrer et que c'est un milieu qui est favorable à la préservation.
Autour de la question en Éthiopie, sur les traces de notre humanité.
Alors Jérôme Sueur, là vous menez les opérations avec une équipe de 7 personnes derrière vous. Donc on est sur une petite pente. Il y a en haut de cette pente un cairn qui indique la présence d'un fragment de dent.
Tout à fait, on commence en aval à 4 mètres. On va dégager deux voies d'écoulement possibles et on va voir s'il y a d'autres fragments à trouver.
Et ces fragments auraient pu être emportés en fait par de l'eau ?
Oui, tout simplement, voilà, c'est ça.
Et comment on fait pour trouver un fragment de dent là, dans ce paysage où en fait il y a quand même beaucoup de cailloux, beaucoup de sable, on imagine que c'est quand même compliqué.
L'autre avantage aussi, c'est que là on est sur un environnement un petit peu noirâtre, brun foncé, brun clair, et les dents, les os aussi, marchent aussi comme ça, sont de couleur plutôt bleuâtre.
Oui, donc ils se détachent en fait un petit peu.
Exactement, alors après bien sûr, faut que la dent soit orientée du bon côté.
Ok, je vous laisse poursuivre. Si là on retrouve rien, par exemple, ce fragment de dent ne pourra pas donner de réponse.
Il signalera la présence d'un hominidé dans ce niveau-là précis. Et donc, ça sera un enregistrement de la présence d'un représentant de notre glorieuse lignée, au même titre qu'à côté, on a trouvé du cochon, du singe, de l'hippopotame, de la girafe. Voilà, tout le monde sera enregistré et donc on saura qu'il y avait une faune assez complète où nous étions présents. On a ici un écosystème qui a perduré et qui a changé beaucoup pendant 2,5 millions d'années. Les humains qui ont vécu dans cet écosystème étaient en phase avec cet écosystème. Ils contribuaient au fonctionnement de cet écosystème. Donc c'est cette approche-là qu'il faut développer de nos jours. Il faut arrêter de voir les humains d'un côté, les animaux de l'autre. Ça ne veut rien dire, nous sommes des animaux. Quand on parle de la biodiversité qui est en train de se casser la figure, on fait partie de ça. Si vous voulez, quelque part, nous, c'est ce qu'on étudie ici. Qu'est-ce qui fait que, finalement, il y a 2,6 millions d'années ou 2,7 millions d'années, les Australopithèques se divisent en deux branches. Une branche qui devient robuste, entre guillemets, qui est une branche qui développe des molaires imposantes, un appareil masticatoire extrêmement fort pour plutôt mastiquer des choses très résistantes, voire des herbes. Et puis d'un autre côté, on a une autre branche qui est la branche qui mène probablement au genre Homo un petit peu plus tard. Quelles sont les conditions locales ? Quelles sont les conditions aussi du climat mondial ? Quels sont les animaux qu'ils ont croisés tous les jours qui ont pu impacter leur comportement et in fine avoir un effet sur leur devenir évolutif ? C'est cela qu'il faut comprendre. Alors surtout la formation de Chungura, ce qui est absolument exceptionnel avec elle, c'est qu'en plus elle a la continuité depuis 3,6 jusqu'à près de 1 million d'années. Et alors là pour le coup c'est absolument unique. Ça vous l'aurez nulle part ailleurs dans le monde. Et donc si vous avez envie de comprendre ce qui s'est passé dans un bassin donné pour un écosystème sur cette tranche de temps, il faut venir là et pas ailleurs. Parce que là, vous allez pouvoir, en marchant dans ce millefeuille géologique, suivre pas à pas les changements de l'environnement, les changements de la faune, les changements de nos ancêtres, qui font partie de la faune, et les changements de leur culture.
Autour de la question en Éthiopie, reportage de Charlie Dupuis au cœur de la vallée de l'Omo, dans la formation de Chungura sur les traces de nos ancêtres. Alors pourquoi les chercher précisément là, Charlie ?
Parce qu'en fait, c'est un véritable millefeuille géologique sur lequel on peut marcher. La formation se situe au cœur du rift est-africain, une vallée qui en fait s'effondre pour, dans plusieurs dizaines de millions d'années, probablement devenir un océan. Et cette vallée, en s'effondrant, piège de nombreux sédiments dans une région volcanique, des conditions qui sont favorables à la conservation de fossiles.
C'est donc là que l'on va retrouver le paléontologue Jean-Renaud Boisserie au début d'une nouvelle journée de fouilles.
Oui, casquette couverte sur la tête, marteau de géologue dans la poche et sac à dos. Le voilà qui regroupe toute son équipe pour les dernières instructions des étudiants en paléontologie à Addis Abeba et puis plusieurs chasseurs de fossiles dans ce paysage de sécheresse.
Ok, so we don't go that way. We've done that already. You check these hills here. Okay? No problem. Let's go. Nous, on est un petit peu en hauteur sur une colline d'argile.
Et très puis, sec, hein, on voit.
Très
ça
sec.
Ça craquelle sous nos pieds.
Voilà, exactement. Vous avez plein de craquelures qui sont dues au séchage de l'argile après la dernière pluie. Donc là, c'est extrêmement craquelé, extrêmement sec. Et puis, on fait face à une plaine. Et en fait, là, au milieu de la vallée, vous avez une ligne sombre que vous voyez. Ça, c'est la rivière avec la forêt-galerie. C'est la rivière Omo. Donc, il y a des petits acacias, des petites touffes d'acacias qui parsèment ce paysage. C'est un peu... c'est une zone très aride. J'appellerais pas ça un désert, mais c'est une zone qui est dure quand même, qui n'est pas tout à fait adaptée aux humains.
Donc là, ce que vous faites, en fait, c'est que vous suivez tous les petits drapeaux jaunes qui ont été laissés par l'équipe avant vous.
C'est ça, on va passer les drapeaux en revue un par un.
C'est comme le petit pousset, sauf que ce sont des drapeaux.
Exactement. Voilà. Donc ça, c'est le premier spécimen de la matinée qu'on va collecter. Donc c'est un crâne partiel d'un bovidé, c'est-à-dire une antilope. Alors, ça appartient à la tribu des Redunsini, qui sont des antilopes qui aiment bien les zones relativement humides. Celui-là, c'est un genre particulier qui est complètement éteint, qui s'appelle Ménélique. Il a été nommé en l'honneur de l'empereur Ménélique, ancien empereur d'Éthiopie. Et là, la partie que vous avez, donc c'est une partie du dessus du crâne, le toit crânien ici. Où en dites, Cochito, Antoine?
Ok.
Campiro? Ok. On note les noms des personnes qui trouvent. Donc celui qui a trouvé ça, c'est Campiro. C'est quelqu'un qui trouve énormément de fossiles. Il a un don pour ça. Pour les petits spécimens, on les met dans des sachets en plastique ou dans des tubes s'ils sont très fragiles, dans les tubes rigides, pour préserver les fossiles, pour les ramener au camp et ensuite à Addis Abeba. Là, pour un spécimen de cette taille-là, qui n'est pas très fragile, on va l'envelopper dans du papier journal, ce qui va quand même bien le protéger, et ensuite on va le mettre dans un sac en tissu.
Vous cherchez des fossiles à Alemayou ?
Ouais.
Alors là, c'est Alemayou, figure incontournable de cette mission. Qui est-il? Vous nous le présentez, Charlie?
Oui, Alemayou est chasseur de fossiles passionné, venu d'Addis Abeba avec d'autres saisonniers de toute l'Éthiopie. Il ne manque pas une expédition.
Il y en a beaucoup ici. Je trouve des bovidés, des cochons, des carnivores et plein d'autres.
Et là, vous avez un bâton que vous utilisez?
Oui, c'est pour vérifier, en les touchant à même le sol, de quel type de fossile il s'agit. Après l'avoir examiné et retourné avec le bâton, je peux vérifier l'espèce à laquelle il appartient et voir si c'est important de le collecter pour l'analyser.
Et comment vous les distinguez?
Ah, les os se distinguent. Même si leur couleur se rapproche de celle de la roche, de l'environnement, vous pouvez facilement différencier les fossiles des pierres par leur structure, par leur forme. Les fossiles les plus utiles, ce sont les carnivores, les primates et les hominidés, bien sûr. Avant tout, ce sont des hominidés que nous cherchons. Cela fait plus de 50 ans que je participe à de telles chasses aux fossiles. Et j'ai trouvé un certain nombre de fossiles très importants dans le monde. Par exemple, j'ai fait partie de l'équipe qui a découvert Lucie. J'ai trouvé deux fragments qui, ensemble, ont composé une mandibule, sa mâchoire inférieure complète. Nous étions alors en 1974.
C'était dans l'Afar, au nord-est de l'Éthiopie?
Oui, dans la région Afar.
Et aujourd'hui, vous avez quel âge?
J'ai 70 ans. J'aime vraiment ça. Trouver des squelettes humains aussi âgés, pour moi, cela veut dire quelque chose d'extraordinaire, de spécial. C'est important pour comprendre l'histoire de l'humanité.
Thank you very much.
Sur les traces de notre histoire, de notre préhistoire humaine en Éthiopie, sur ce continent africain qu'on appelle le berceau de l'humanité. Peut-être à tort, écoutons le paléontologue Jean-Renaud Boisserie.
J'aime pas bien ce terme de berceau de l'humanité. Le berceau, c'est un objet que vous avez quand vous ne savez pas marcher. Et puis dès que vous savez marcher, vous quittez votre berceau, vous l'abandonnez définitivement. Et puis on le met au grenier ou à la cave, on le revend et c'est terminé, on n'en parle plus. Alors l'Afrique, c'est absolument pas ça pour l'humanité. L'Afrique, c'est l'endroit où on a appris à marcher, où on s'est mis debout. Et les humains, ce sont des bipèdes, des grands singes bipèdes avec des petites canines. Ça, c'est la définition de l'humanité que je peux vous donner, puisque c'est ce qui nous différencie à partir du moment où on se sépare des chimpanzés. Le gros cerveau, il vient plus tard. Donc on apprend à devenir bipède en Afrique, mais on ne la quitte pas. On y reste pendant l'essentiel de notre histoire, jusqu'à, pour l'instant, les plus anciens connus hors d'Afrique de nos ancêtres, c'est 1,8 million d'années. 7 millions pour les plus anciens connus en Afrique, 1,8 million d'années. Donc pendant 5 millions d'années, un peu plus de 5 millions d'années, notre histoire a été exclusivement africaine. Et il s'est passé plein de choses. Alors pour une enfance, c'est assez long, je trouve. Pour une période de nourrisson même. Donc ça ne correspond pas au berceau. Ensuite, des humains sont partis à l'exploration, sont partis à la conquête du reste du monde. Ils sont d'abord allés en Eurasie. Mais ça ne veut pas dire qu'on a abandonné l'Afrique. Absolument pas. Parce qu'à 1,8 million d'années, à 1 million d'années, ici, dans la formation de Tchungwara, on trouve des restes humains. Donc, ils étaient là et ils ont continué à évoluer sur place. Et c'est même encore plus fort, c'est que toutes les plus grandes innovations, que ce soit en termes biologiques ou en termes culturels, ont eu lieu en Afrique jusqu'à très récemment. Ça veut dire que les premiers représentants de notre espèce Homo sapiens à 300 000 ou 200 000 ans, c'est en Afrique. Pas ailleurs dans le monde. Les grandes phases des outils lithiques, l'Oldowayen, l'Acheuléen, le Paléolithique moyen, ont été inventées en Afrique. Donc ça veut dire que l'évolution, le centre d'évolution de l'humanité, c'est l'Afrique. Nous, les humains, nous sommes essentiellement un grand mammifère africain. Et donc la dispersion des humains à l'échelle du globe, c'est une africanisation de la planète.
Une africanisation de la planète, voilà qui est dit et bien dit par Jean-Renaud Boisserie, paléontologue en charge de cette mission de fouille en Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, retour au camp de base, où chaque soir, Charlie, il faut laver les fossiles à la lumière des frontales.
Et Jérôme Sureau, qui travaille au laboratoire Palévoprime de l'université de Poitiers, est très concentré.
I have another one. Well, maybe it's enough, hein?
For what?
On déballe les fossiles.
Voilà, après les avoir soigneusement emballés, on les déballe. Un petit nettoyage.
Et là, ce sont tous les fossiles récoltés aujourd'hui ?
Ce sont les fossiles récoltés depuis 4 jours.
Vous savez combien il y a eu d'objets collectés là depuis le début ?
Peut-être bien entre 100 et 120. En 4 jours, c'est très honorable. C'est vraiment pas mal. Sur un mois de mission, habituellement, on ramasse entre 800 et 900 fossiles. Donc voilà, par exemple, là, on a plusieurs os d'hippopotames. On trouve énormément d'hippopotames, comme vous avez peut-être pu le constater. L'Homo regorge d'hippopotames.
En fait, qu'est-ce qu'ils vont devenir, là, ces fossiles ? Où est-ce qu'ils vont aller ? À quoi ils vont servir, finalement ?
Là, déjà, ils vont être remis au Musée national d'Éthiopie, à Addis Abeba, dans les collections qui serviront donc pour les chercheurs, après, à alimenter, selon leur spécialité.
Ils pourront venir, en fait, les consulter sur place ?
Tout à fait.
Là, ce sont des os de...
Alors, là, c'est une dent de suidé, de cochon, d'un gros cochon, où la dent est un petit peu abîmée, donc là on va pas insister beaucoup, on va juste la dépoussiérer, voilà.
Vous la mettez dans le tamis qui est lui-même dans un seau d'eau.
Exactement.
Et là l'eau est bien, bien sale maintenant.
Bah on va pas tarder à la changer justement. Ah merci. Thanks, Cochito.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces missions de fouilles ?
Ah, c'est un petit peu une chasse au trésor. On a toujours cette envie de trouver quelque chose d'exceptionnel. Là, cet après-midi, il y avait des belles pièces, hein, mine de rien. Un massacre complet d'une petite antilope. C'est la partie supérieure du crâne d'antilope. Là où commencent à ressortir les cornes, en fait. C'est assez magnifique, même si ça reste une antilope. Après, bien sûr, toujours la quête du Graal, donc l'hominidé, forcément, c'est quelque chose qui motive beaucoup les troupes. Ça peut se trouver, il n'y a pas de raison.
On continue de chercher, de s'interroger autour de la question comment remonter sur les traces de nos ancêtres dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, après une courte pause à l'ombre chantante d'Ethiocolor sur RFI. Éthiocolor sur RFI, autour de la question comment remonter sur les traces de notre humanité au sud-ouest de l'Éthiopie. Reportage de Charlie Dupio au cœur de la vallée désertique de l'Omo. Dans quelles conditions travaillent tous ces chercheurs de fossiles que vous avez suivis, Charlie ?
Eh bien, il fait 40 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. C'est ce que m'a dit Jean-Renaud Boisserie, chef de la mission, le premier jour. On met du temps à s'habituer à la chaleur, à l'absence de végétation sous laquelle s'abriter. Heureusement, il y a souvent un peu de vent qui soulage. Parfois, nous croisons quelques villageois d'Assanech, de la tribu locale, qui viennent, fusil à l'épaule, le regard curieux, intrigué par ces chercheurs qui creusent pendant des heures autour de fossiles ou qui prélèvent des échantillons de terre. La nuit, on dort sous la tente, dans un campement temporaire. Attention à choisir une tente qui ne risque pas de fondre au soleil.
Ah oui, ça vaut mieux.
Oui, et nous sommes au bord de la rivière Omo, dans laquelle on peut même apercevoir des crocodiles sur l'autre berge. La douche a lieu en rentrant le soir avec un seau d'eau de la rivière, un seau par personne. Et cela fait du bien, avec la poussière qui s'incruste jusqu'au creux des oreilles, sans compter les tiques, les scorpions et les serpents. Des conditions que les chercheurs vivent pendant 2-3 semaines sur le terrain.
Ça donne envie ou pas, suite de l'aventure. Du côté des archéologues, l'on retrouve cette fois-ci au sommet d'une butte, à la tête des opérations Anne Delagne, directrice de recherche au CNRS. Elle travaille au sein du laboratoire PACEA à l'Université de Bordeaux.
So we can maybe have one person here digging here and maybe there, two persons over there and one here. Let's go.
Alors là, vous avez en main Anne Delagne un outil en quartz.
C'est un grand éclat finalement d'environ 4 cm de long. On reconnaît l'endroit où a été percuté le galet de quartz, qui est cet endroit-là qu'on appelle le talon de l'éclat, avec un long tranchant qui court le long de tout le bord latéral gauche de la pièce. Donc on a un tranchant vraiment effectif qui doit faire de 60 à environ 60 degrés d'angle, d'angulation. C'est parfaitement adapté pour un travail de découpe. Avec ça, vous pouvez découper entièrement la carcasse d'un herbivore, prélever des filets. Et on a déjà sorti ici une grosse centaine de pièces, et on va en sortir encore davantage, qui nous donneront un échantillon suffisant pour faire une analyse détaillée. Donc c'est tout ce qu'on recherche en fait. Alors les outils en quartz qu'on a ici sont datés de 2,3 millions d'années. C'est très vieux. C'est très vieux. Ça se rapporte à une culture qu'on appelle l'Oldowayen ancien, qui est connu uniquement à l'échelle de l'Afrique de l'Est et à l'échelle de ce contexte très particulier qu'est le Grand Rift Est-Africain, la Grande Vallée du Rift Est-Africain. Donc cette culture très ancienne, c'est pas la toute première manifestation que l'on connaisse de fabrication d'outils chez ces hominidés très anciens, puisque la taille de la pierre commence avant 3 millions d'années, autour de 3 millions 4. Donc on en a des vestiges pas très loin d'ici, dans le nord du Kenya, dans une autre formation géologique qui s'appelle la formation de Natshukwi, qui est présente au bord du lac Turkana, avec des outils taillés, indubitablement taillés. Alors c'est extrêmement simple, ce sont de gros blocs de roches volcaniques. Alors la vallée de l'Omo, elle se singularise par ses petits outils en quartz, réalisés à partir de petits galets de rivière, donc ça c'est différent. Et de fait, les industries qu'on trouve ici, les outillages qu'on trouve ici dans la vallée de l'Omont ont été rapportés pendant longtemps à un outillage extrêmement frustre, peu élaboré, peut-être provenant même d'une taille non intentionnelle de la part des hominidés, dans le cadre d'activités peut-être de concassage, de matériaux durs comme des noix, etc. Et en fait, plus on l'étudie, plus on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Là, on a affaire à un vrai débitage de la pierre. Alors débitage, c'est tailler la pierre, c'est la fragmenter de façon intentionnelle et contrôlée pour en extraire des éclats aux propriétés coupantes.
Et ce sont les éclats en fait dont on va servir.
Ce sont les éclats qui sont recherchés, voilà. Il n'est pas aléatoire, il montre déjà une maîtrise de principes élémentaires de fragmentation de la pierre et un contrôle à la fois de la précision et de la force des coups donnés pour fragmenter la pierre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'arriver à cerner à travers l'outil, le geste technique, et à travers le geste technique, finalement, l'habileté psychomotrice de l'hominidé qui a produit ça, en fonction aussi d'un objectif technique. Alors, qu'est-ce que je recherche comme type de petits fragments? Et pourquoi faire? C'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence, c'est quelles matières ont été travaillées avec ces tranchants. Est-ce que c'est directement des outils qui ont servi à découper, par exemple, de la viande? Ou est-ce que c'est des outils qui, eux-mêmes, servent à façonner éventuellement d'autres outils, qui pourraient être des outils en bois, des épieux, pour chasser tout simplement des animaux? Bien sûr, si on peut aller jusqu'à la fonction des outils, là, ça nous ouvre des pans d'interprétation extrêmement intéressants.
D'où l'importance, justement, de continuer à fouiller sur le terrain. C'est reparti, Charlie, aux côtés d'Anne Delagne.
Oui, avec aussi l'archéologue de l'INRAP, Michel Brenet, également Brad Gravina, post-doctorant, et Aline Galland, doctorante, qui débattent de la stratégie à adopter.
Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Dans tous les cas, des couteaux à vitre, on n'en a qu'un seul.
Oui.
Donc c'est exclu d'utiliser les couteaux à vitre en permanence. Donc c'est burin, ouais, ou piochon. Dans un premier temps, le piochon semble fonctionner tant bien que mal, et ensuite ce sera burin. De toute façon, dès qu'on sera plus dur.
On va les bousiller, nos couteaux.
On va bousiller, oui.
Là, vous creusez avec plusieurs outils différents.
Alors là, comme le sédiment est très dur, on travaille avec plusieurs méthodes et plus ou moins c'est très très empirique. On finit par retenir celle qui s'avère la plus efficace par rapport à la dureté du sédiment, sachant qu'on veut aller à la fois aller assez vite pour repérer assez rapidement s'il y a un horizon archéologique préservé ou pas, mais en même temps on veut fouiller assez finement aussi pour ne pas rater justement des petits éléments en fouillant dans le sédiment. À partir du moment où on va commencer à les trouver, on va fouiller beaucoup plus finement pour essayer de voir si ça nous marque notre niveau archéologique.
Et donc là, vous cherchez l'horizon d'origine pour retrouver éventuellement d'autres objets.
Retrouver d'autres objets, puis retrouver le lieu d'installation de ces hominidés aussi, en étudier la distribution spatiale, la position topographique, la position dans l'environnement, essayer de retrouver aussi éventuellement les éléments de faune associés, puisqu'on a aussi un petit peu de matériel osseux qui se promenait en surface, de fragments osseux. Donc voilà, retrouver un peu quelles activités ils ont menées sur le site et comment se sont distribuées spatialement ces activités.
Donc on travaille avec la truelle, avec des brosses ou des pinceaux et avec des pelles en plastique pour ramasser nos sédiments. On a creusé sur 30-40 cm de profondeur.
Je vous laisse creuser encore.
Le fait de ne rien trouver est aussi enrichissant que le fait de trouver quelque chose, n'est-ce pas docteur? Bon, concassage, we can clean for you. Two persons for you.
Okay. On est sur le sommet du niveau là.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, c'est un petit fragment d'os ou de dent, apparemment. En tous les cas, c'est pas du lithique, c'est pas un morceau de quartz, c'est un morceau de faune, un tout petit fragment, là, difficilement identifiable, mais qui est bien en place, voilà, qui a été découvert à la fouille. Donc on va le laisser jusqu'à ce qu'on ait fini de faire apparaître le niveau archéo, de manière à le prélever au même titre que les fragments de quartz. Voilà. Voilà, ça pourrait être de l'émail dentaire ou un fragment de dent. On va faire identifier par les collègues paléontologues.
Bon, là, ce sont de tout petits gestes que vous faites, très minutieux, de façon pas très confortable.
Voilà, on est toujours dans des positions effectivement inconfortables, parce qu'il faut à la fois être au-dessus et pas très très loin du niveau, de manière à pouvoir mieux agencer ses propres gestes, et éviter bien entendu de piétiner ce qu'on a déjà fouillé. On se joue un peu délicat, on a toujours le corps en avant, donc on fait travailler nos abdominaux
et les dorsaux. Tu sais que tu es dans la bonne position.
Oui, il y a un peu de ça, tout à fait. Voilà. Quand on a mal au dos, mal au genou, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à fouiller. Bah, lui, il a trouvé un fragment de quartz ici, là, juste au sommet de l'horizon limoneux. Un joli petit fragment de quartz. Enfin, joli, ça c'est mon point de vue, mais bien clair, bien net. Donc c'est un petit fragment, à l'origine bien entendu d'un galet. Hein. On est sur des indices qui font entre 5-6 mm et tout au plus 1,5 cm, 2 cm. Parce que si on trouve plus gros, c'est champagne à tous les étages.
Autour de la question, en Éthiopie. Sur les traces de notre humanité.
Donc Aline Galland, vous êtes au poste de tamisage un peu plus bas là, de la tranchée.
Donc il reste, comme c'est de l'argile assez compacte, il reste encore quelques mottes assez grosses. Donc on essaie de les concasser pour voir si justement il n'y a pas du quartz coincé à l'intérieur.
Vous avez trouvé du quartz là?
Oui, alors là en fait on a passé les sédiments dans un tamis. Et en fait en tamisant on peut repérer les petits éclats de quartz qui n'ont pas été vus à la fouille. Donc par exemple celui-là, bon, il n'est pas très grand, hein, il fait à peu près moins d'un centimètre.
La longueur de votre ongle.
Exactement. Voilà, en fait, on pense qu'ils utilisaient principalement les éclats.
Donc là, on se situe à peu près 2 millions d'années pour les hominidés, ici, sur ce site. Et du coup, ça veut dire que c'était surtout les éclats qui étaient utilisés pour couper.
Voilà, c'est ça. On ne retrouve pas de biface ici. En fait, je m'intéresse à l'étude des traces qui ont des traces fonctionnelles, donc des traces d'utilisation, qui montre en fait les différents types d'activités réalisées par les hominidés.
Au microscope, vous pouvez voir différents types de traces.
Et en fait, je vais analyser la partie tranchante et répertorier les différentes traces, donc qui peuvent être soit des stries, différents types de polis. Donc j'ai réalisé moi-même des éclats que j'ai ensuite utilisés sur différents types de matériaux, comme de la viande ou du bois, je peux dire que tel type de trace correspond à une activité particulière.
Donc par exemple à la découpe du bois ou à la découpe de la viande.
Voilà, c'est ça. Et ces traces que j'ai avec le matériel expérimental, je peux le comparer avec les traces que j'observe sur le matériel archéologique.
Donc qui a été récupéré par exemple ici.
Voilà. C'est vraiment quelque chose à explorer parce que ça n'a jamais été fait pour cette période et pour ces sites ici dans la vallée de Lomo. C'est comme si on entrait un peu dans leur tête, quoi, d'essayer de comprendre pourquoi les hominidés ont eu besoin de les tailler. Ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que ça a été utilisé il y a 2 millions d'années et qu'on le retrouve, que je l'ai dans ma main maintenant. et que je me dise, voilà, ils l'ont utilisé pour faire quelque chose il y a 2 millions d'années, on ne sait pas encore quoi. Et c'est à moi de le deviner presque.
Impressionnante enquête archéologique à remonter le temps. Pourquoi c'est là, dans ce delta, sur ce terrain-là précisément, il y a des millions d'années que ça s'est joué, Charlie ?
Ils sont 3 géologues pour reconstituer la carte justement de ce delta, des lacs, de la rivière Homo à travers les temps anciens. Mathieu Schuster, sédimentologue, chercheur au CNRS à l'Institut de physique du globe de Strasbourg. La doctorante Marion Corbet, dont la thèse porte sur cette formation de Tchungoura. Et Jean-Yves Reynaud, géologue, professeur à l'Université de Lille.
On a déjà vu ça plusieurs fois, avec des toutes petites rides plates, de texture légèrement plus grossière, ou aussi du litage ondulé, qui peut nous faire penser à ce qu'il y avait, peut-être l'activité des vagues dans ce lac dans lequel ce tuf s'est déposé.
En quoi cette vallée de l'Homo est intéressante d'un point de vue géologique ?
C'est une vallée qui appartient au Grand Rift Est-Africain, donc ça fait très longtemps qu'on en parle comme d'une particularité exceptionnelle de l'évolution géologique de l'Afrique. C'est un très grand continent, très grande plaque lithosphérique qui a la particularité de bouger peu et donc d'enregistrer une très très longue histoire. Et la dernière phase de cette longue histoire, c'est en gros la séparation ou l'amorce d'une séparation entre la partie est et la partie principale, la partie est dérivant vers l'océan Indien et la partie principale restant sur place.
Donc c'est ce qu'on appelle le rift.
Le rift est-africain, c'est la grande fracture qui va avoir tendance à séparer ces deux parties. Eh bien, on va avoir une sorte de fossé. Et puis plus la fracture va avoir tendance à progresser, plus le fond de ce fossé va descendre topographiquement pour finir par rejoindre le niveau de la mer.
Je pense que oui, ce qui est aussi intéressant ici, c'est que d'une part la tectonique nous crée un bassin, et comme Jean-Yves l'a dit, on a le fond du bassin qui descend, donc on peut enregistrer, on a de la place pour enregistrer et accumuler des sédiments. Et ensuite, on a une nouvelle phase de tectonique avec des nouvelles failles qui nous permettent de mettre à jour ou au jour ces strates qui ont été enregistrées.
Et en fait, du coup, on peut dater les couches de cendres volcaniques. C'est ça aussi qui peut être utile pour les autres disciplines qui travaillent ici.
Oui, on peut dater les cendres volcaniques avec des méthodes radio-isotopiques, donc des chronomètres isotopiques. Mais c'est ce qui permet de donner un cadre qu'on appelle donc de datation absolue. Donc on va dater en termes de millions d'années, par exemple. Donc c'est quand même très important d'essayer d'apporter un cadre donc absolu, savoir quel niveau dans lequel on a trouvé, par exemple, tel genre d'hominidé fossile. Eh bien, si on est certain que les fossiles appartiennent à une couche donnée, qu'ils ont été déposés en même temps que les sédiments qui sont constitutifs de cette couche, à ce moment-là, ils vont être attribués à la même époque que l'époque du dépôt des sédiments de la couche.
Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'arriver à lire dans des roches, dans des dépôts sédimentaires, une histoire des paysages anciens, d'arriver à dire, bah, ici... Il y avait une rivière qui coulait, et puis il y avait un lac, il y avait des vagues sur ce lac, il y avait des plages, et peut-être que ces plages étaient occupées par des hommes préhistoriques ou d'autres animaux. Voilà.
Comment reconstituer précisément ces paysages préhistoriques et la végétation ancienne ? Doris Barboni, palynologue et spécialiste des microfossiles de plantes au Cérège, le centre de recherche en géosciences de l'environnement, vous l'avez suivi sur le terrain éthiopien, Charlie Dupiot, petit sac à échantillons en main.
Quand il y a ça, au moins tout est au même endroit. Tu vois, quand tu as une butte comme ça, tu as je sais pas combien de centaines de milliers d'années au même endroit.
On peut dire que les plantes se sont fossilisées ici ?
Mais en micro-restes, c'est des micro-fossiles. Donc ce qui va rester, c'est ce qui est le plus solide, donc les restes minéraux des plantes. Donc on aura peut-être des pollens préservés, peut-être des phytolithes, ces petites particules de silice.
Encore un peu. Et au laboratoire, donc, vous allez pouvoir voir s'il y a des phytolithes dans tout ça. Et les phytolithes, on peut dire que ce sont des indicateurs de plantes. Et de quelles plantes c'était ?
Oui. Donc les phytolithes sont des particules d'opale, c'est de la silice biogénique produite par les plantes, qui ont des formes très variables et que l'on trouve bien préservées dans la plupart des sédiments et des sols fossiles. Sous mon microscope, j'observe ces différentes formes, je les identifie, je les dessine, et puis je compte. Et à la fin de mon comptage, je vois, je fais des proportions. Quelle est la proportion des phytolithes d'arbres par rapport aux phytolithes d'herbes, phytolithes de palmiers, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, les phytolithes de cyperacées qui poussent dans les marécages. Et avec ces différentes proportions...
Donc dans un même échantillon, c'est ça ?
Dans un même échantillon, je vais avoir plein de choses. On sait que la végétation locale n'était pas bien différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc on a sûrement les mêmes espèces de plantes aujourd'hui comme il y a 2,5 millions d'années dans cette vallée de l'Omo.
Qu'est-ce que l'étude pour vous de la végétation peut apporter à notre compréhension de cette vallée de l'Omo ?
Après, il y a l'évolution des hominidés, donc des ancêtres de la lignée humaine. Comme j'étudie en Tanzanie des niveaux avec du même âge, je suis intéressée de savoir leur adaptabilité à un environnement différent. Est-ce que cet environnement était très différent de celui d'Olduvai à la même période? Qu'est-ce qui changeait? Par exemple, à Olduvai, il y a beaucoup d'outils. Autour de 2 millions d'années, chaque site archéologique a des outils taillés. Ici, il n'y en a pas. Ici, on va trouver des dents d'hominidés, d'Homo erectus, mais il n'y a pas d'outils. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est différent ? Pourquoi ils n'avaient pas besoin d'utiliser des outils ? Est-ce que ça vient de quelque chose de l'environnement ? Est-ce que... On ne sait pas non plus à quoi servaient ces outils. Quel est l'impact de l'environnement, du changement d'environnement sur l'évolution de l'homme ? S'il n'y a pas d'arbres, on ne peut pas s'abriter. Donc, comment on fait par rapport aux carnivores ? Est-ce qu'on ne peut plus grimper aux arbres ? Est-ce qu'on s'organise en groupe pour être plus fort ? Indirectement, la végétation peut avoir une influence sur l'évolution des comportements humains. Est-ce que ça a été si important que ça ou pas ? Ou est-ce que l'évolution de l'homme s'est faite indépendamment des changements environnementaux ? Ça m'intéresse.
Et tout ça, ça reste à explorer.
Oui, je trouve que ça, c'est bien, mais c'est sûr qu'en l'espace d'une vie, on ne pourra pas répondre à ces questions. Mais bon, plus tard, chacun met une pièce du puzzle.
Jean-Renaud Boisserie, paléontologue à la tête de l'expédition Homo Group Research Expedition en Éthiopie.
Ça fait 12 ans qu'on travaille et on commence à avoir les premiers résultats synthétiques, à peine. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps tout ça. On accumule beaucoup de données, chacun de notre côté, il nous faut beaucoup de temps pour obtenir les résultats.
Et qu'est-ce qui donne alors ces premiers résultats ?
Ces premiers résultats, ils donnent une image qui n'est pas forcément tout à fait celle qui était comprise jusqu'à présent à partir des travaux des années 60-70. Où en gros, on se disait, le climat explique en gros ce qui s'est passé, c'est-à-dire les changements du climat, l'aridification, le refroidissement au fil des millions d'années, font que nos ancêtres sont devenus... ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des bipèdes à gros cerveau. Ce que nos résultats montrent, c'est que les choses ne sont pas aussi simples parce que les différents groupes ont leurs propres événements évolutifs qui ne sont pas forcément corrélés, que ce soit les bovidés, les hippos, les cochons, les hominidés, que donc tout ça n'est pas conduit par un grand moteur général qui est le climat. Mais c'est plutôt lié à une interaction subtile entre le climat, bien évidemment, mais aussi la flore, la tectonique, c'est-à-dire la forme des paysages, en gros, on peut traduire ça comme ça, et puis toutes les interactions qu'il peut y avoir entre tous ces animaux et le régime hydrologique, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un lac, une rivière, etc. À quel moment la rivière prend le pas sur le lac et vice-versa. Les principaux changements de la faune, où on voit beaucoup d'espèces fauniques disparaître et d'autres apparaître, ne se corrèlent pas nécessairement avec un événement climatique donné. Ça concerne également les hominidés. Les derniers Australopithèques robustes disparaissent dans la vallée peut-être vers 1,3 million. Ça ne correspond pas forcément à du climat. Voilà, ce qu'on peut dire de manière très générale, c'est que les réponses, elles sont plutôt dans ces interactions, plutôt que de trouver un grand Deus ex machina qui permet de tout expliquer.
Donc, qui serait le climat.
Et qui serait le climat, mais qui, à mon avis, ça fonctionne pas, non, ça fonctionne pas bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Les outils apparaissent à 2,3 millions. Pourquoi il n'y en a pas avant dans cette vallée, alors qu'il y a probablement toutes les conditions, il y a des hominidés, il y a des ressources en matière première qui permettraient de les faire. Après, ils disparaissent, après 2 millions à peu près, et on n'a plus vraiment de preuves très flagrantes de l'utilisation d'outils jusque vers 1 million. Pourquoi ? Quelles sont les conditions qui contrôlent ça ? Ce sont des résultats, en fait, qui posent de nouvelles questions sur lesquelles on travaille. Pourquoi vers 2 millions, on a probablement une fermeture du bassin avec des phénomènes, un impact sur la faune ? C'est-à-dire que le bassin avant qui était ouvert, les eaux du bassin partaient vers la mer, vers l'océan Indien. À partir de 2 millions, vraisemblablement, elles restent là. Elles ne ressortent plus, et ça a un impact fort sur la faune, y compris nos ancêtres, puisque nos ancêtres, il y a un certain nombre d'hypothèses qui proposent qu'ils ont pu migrer à l'intérieur de l'Afrique à la faveur des connexions entre réseaux hydrographiques, entre rivières, entre lacs, puisque extrêmement vraisemblablement, les hominidés à cette époque-là ne traversaient pas les déserts, ne traversaient pas les zones montagneuses arides. Ils pouvaient pas, ils n'avaient pas cette capacité-là, au même titre que les grands singes aujourd'hui. Donc ça, ce sont des aspects qui sont extrêmement intéressants. Donc c'est pour ça qu'on a des géologues qui travaillent sur la sédimentologie pour reconstituer cette dynamique-là. Toutes ces questions-là, on n'a pas encore les réponses, mais il faudra encore quelques années de travail. On en est toujours à la phase de collecte des données. Il faudra des années en plus pour interpréter toutes ces données. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est la convergence des différentes disciplines qui devrait nous permettre de répondre à ça.
Les recherches, les fouilles sont loin d'être terminées, Charlie. Quel est l'objectif à long terme de toute cette mission ?
En fait, c'est d'établir, grâce aux données collectées année après année, des cartes précises qui retracent l'évolution de la faune, de la végétation, de la géologie, des productions culturelles des hommes, et ce sur plusieurs millions d'années, puisque cette formation de Shongora, dans le sud de l'Éthiopie, le permet. Elle a encore de nombreux secrets à nous révéler.
Et peut-être aussi quelques mythes à déconstruire, comme celui d'une Afrique qui ne serait que le berceau de l'humanité. Je vous laisse conclure, Charline.
Oui, dire combien j'ai été impressionnée par ces chercheuses et ces chercheurs, toujours curieux, qui creusent parfois 3 jours pour ne rien trouver, qui s'émerveillent d'un affleurement géologique, source de nouvelles hypothèses, ou qui déterrent pendant des heures au soleil un crâne d'hippopotame massif. Bref, qui dans la poussière et l'abnégation, malgré la déception des journées creuses, cherchent des réponses, mais trouvent surtout d'autres questions.
Merci beaucoup, Charline, pour toutes ces questions ouvertes au cours de ce reportage de terrain paléo et archéologique dans la vallée de l'Omo en Éthiopie sur les traces de nos ancêtres. À réécouter bien sûr et à podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. La réalisation est signée Hugo Violas. On se retrouve demain, chers amis auditeurs, autour de questions tout aussi ouvertes, mais cette fois-ci sur notre avenir commun. Nous nous interrogeons sur la confiance à l'ère numérique. Merci de votre fidélité et de votre curiosité. Surtout garder l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure d'un prochain journal.